mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis. Ton émission d'aujourd'hui s'intitule « Les Antis ». De quoi s'agit-il exactement ?
Les Antis sont légions. Anti-américains, anti-bourgeois, anti-capitalistes, anti-chasse, anti-chrétiens, anti-cléricaux, anti-colonialistes, anti-communistes, anti-conformistes, anti-corrida, anti-esclavagistes, anti-fa, anti-flics, anti-gouvernementales, anti-guerre, anti-héros, anti-impérialistes, anti-IVG, anti-militaristes, anti-mondialistes, anti-nucléaires, anti-papistes, anti-racistes, antisémites, anti-sionistes, anti-spécistes, anti-système, anti-vaccins. La liste n'en finit pas. On trouve aussi les phobes. Le suffixe « phobe » décrit une peur, et une évolution sémantique en a fait synonyme du préfixe « anti ». La liste est ainsi décuplée, homophobe, islamophobe, publiphobe, russophobe et autres xénophobes. Enfin, certains termes ne comportent ni préfixe ni suffixe, mais l'idée d'un rejet y est tout aussi présente. Ainsi, les végétaliens, les anarchistes, ou, en musique, le dodécaphonisme, un principe de composition qui rejette les accords parfaits et la tonalité. Les antis sont ceux qui vouent leur existence à servir la cause définie par l'un de ces mots.
Pourquoi et comment cela se produit-il ?
C'est la théorie girardienne qui peut nous donner quelques indications. Il ne s'agit pas ici des personnes partageant simplement une opinion. Nous pouvons ne pas aimer les corridas ou la publicité, sans toutefois consacrer notre existence entière à obtenir leur éradication. Le cas qui nous intéresse est celui de la personne dont l'anti-quelque chose est devenu la raison de vivre. Et la plupart du temps, cela se traduit par l'activisme ou le militantisme. La pensée de René Girard permet d'interpréter ce cas. Le farouche partisan anti-quelque chose était au départ, comme tout le monde, étreint par l'incertitude fondamentale. À quoi sert ma propre existence ? Il va trouver sa raison d'être dans le désir de corriger une injustice, de combattre des opinions qui lui semblent néfastes, d'œuvrer à faire disparaître certaines pratiques, etc. L'engagement partisan anti-quelque chose trouve ainsi son origine et sa force dans ce manque exprimé par tant de penseurs sous des formes diverses. Maître Eckhart, je ne vois pas pourquoi je vis. Le déficit d'être de Sartre. L'effarement devant le jaillissement permanent de la vie en soi, disait Michel Henry. C'est ce que René Girard, de son côté, appelait le désir métaphysique. Or, la théorie mimétique stipule que tout désir naît nécessairement par l'exemple d'une tierce personne, que René Girard appelle un médiateur. Un médiateur dont le prestige va éveiller chez autrui le désir de lui ressembler. Certaines personnes reconnaissent franchement devoir leur engagement à tel ou tel personnage. Robespierre, Jean Jaurès, Che Guevara, le commandant Cousteau, Salvatore Allende, Gandhi, Jack Kerouac, Al Gore et tant d'autres.
Jean-Louis, une difficulté se présente tout de même. Dans la pensée de René Girard, j'ai compris que le médiateur inspire un désir, et non une détestation. En première lecture, le désir est le désir d'un bien pour soi. La détestation, selon Girard, n'apparaît qu'ensuite, avec la rivalité mimétique.
Dans le cas des anti-quelque chose, il semble bien que le médiateur emmène directement le sujet à cette dernière étape. Mais nous allons voir que cette détestation apparaît comme un bien aux yeux de ceux qui la ressentent. Une première observation est à faire. Une posture anti-quelque chose recherche le prestige accordé à une lutte courageuse pour une juste cause. Or, ces justes causes sont parfois sujettes à une certaine variabilité. Dans la liste que j'énumérais au début de l'émission, certaines options sont marquées du sceau de l'infamie, tout le monde sait bien lesquelles. C'est aussi une affaire de temps et de lieu. Les Verts allemands des années 70 étaient farouchement antimilitaristes. il professait le slogan « Besser rot als tot », qui signifie « il vaut mieux être rouge », c'est-à-dire accepter le communisme, « que mort ». La traduction française perd l'assonance entre « rot » et « tot » qui faisait l'efficacité de la formule en langue allemande. Mais les vers allemands d'aujourd'hui ont bien changé. Ils soutiennent totalement le projet de réarmement de l'Allemagne que le chancelier Scholz avait annoncé et qu'a confirmé son successeur, Friedrich Merz. Deuxième observation. Un anti-quelque chose se place de lui-même dans une situation contradictoire, que les Anglais appellent un « double bind », c'est-à-dire littéralement une double contrainte. Cette situation est la suivante. Notre anti-quelque chose trouve sa raison de vivre dans un phénomène qu'il aspire à faire disparaître. C'est là la contradiction. Il est pris entre le désir sincère d'éradiquer ce contre quoi il milite et le désir secret que la chose perdure puisqu'il y trouve sa raison de vivre. Serait-ce là le principal inconvénient d'être un anti ? C'est possible. Pour preuve, l'acharnement des antis confrontés à l'amenuisement de leur quelque chose. Ils cherchent à prolonger les nécessités de leur lutte en amplifiant le caractère néfaste de leur quelque chose, en exagérant son influence et en exigeant que le travail d'éradication soit mené jusqu'au bout, ou encore en annonçant la menace d'un réveil potentiel.
Peux-tu donner un exemple ?
Notre pays compte 6,6% de catholiques pratiquants, d'après un sondage de l'IFOP en 2021, et plus de 50% des Français se déclarent incroyants. Beaucoup de valeurs majoritaires aujourd'hui ne sont pas celles du christianisme, notamment en matière de mariage, d'avortement, d'euthanasie. L'État français est laïque, ce qui implique que le clergé catholique est tenu à l'écart du pouvoir. Il est ainsi difficile de soutenir que l'Église exerce une influence sociale dominante. Cela n'empêche pourtant pas les mouvements anticléricaux de combattre encore la libre expression des valeurs chrétiennes, par exemple avec l'interdiction des sites proposant des alternatives à l'IVG ou de réclamer la suppression de tout symbole catholique, crèche ou statue de Saint-Michel. Peut-être as-tu, Catherine, deviné la troisième observation. Le quelque chose dont notre personne est un anti a des allures de bouc émissaire. C'est parfaitement clair dans le cas de l'antisémitisme ou de la xénophobie. Le choix anti-quelque chose implique la plupart du temps l'objectif d'expulser la chose en question, de la faire disparaître, de l'anéantir. Ainsi, les anticapitalistes aspirent-ils à mettre fin au capitalisme ? Le journaliste Hervé Kempf l'a exprimé de façon très directe dans le titre d'un de ses livres « Que crève le capitalisme ? Ce sera lui ou nous ?» C'est une telle aspiration à expulser qui donne au quelque chose en question cette allure de bouc émissaire, tout au moins de bouc émissaire désigné par une fraction de la communauté, fraction qui, précisément, tire sa cohésion de son hostilité à son égard. Mais s'il est une leçon que la théorie mimétique nous enseigne, c'est bien de remettre en question la culpabilité des boucs émissaires. Dernière observation et non des moindres, le bénéfice de l'expulsion du quelque chose de l'anti est souvent incertain. Ce bénéfice repose en effet sur une hypothèse assez contestable. De la suppression du mal jaillirait automatiquement le bien. Quelques exemples en montrent les limites. Stendhal et Balzac se demandaient déjà, autour de 1830, pourquoi les Français n'étaient pas heureux alors que la Révolution avait accompli son œuvre d'expulsion du prétendu tyran. Plus récemment, l'expérience soviétique a réalisé dès 1917 le rêve d'Hervé Kempf de mettre fin au capitalisme. Mais il est assez difficile de déceler, au cours des 80 années qui ont suivi, l'émergence automatique du bien, ailleurs que dans la propagande du régime. Et symétriquement, personne ne soutiendrait que les réussites des États-Unis dans la seconde partie du XXe siècle sont le fruit du maccartisme, ni que c'est l'interdiction du tout parti communiste qui a fait l'essor de l'ex-Allemagne de l'Ouest. L'amitié de quelqu'un, psychopathes exceptés, ne s'obtient pas en assassinant ses adversaires. Faire advenir le bien demande des actes positifs.
Quelles conclusions tires-tu de ces observations ?
Qu'il est bien dangereux de nous définir comme un anti-quelque chose, d'y chercher notre raison de vivre, ce qui n'empêche pas d'être vigoureusement opposé à certaines choses ou à certaines personnes. Simplement, n'en faisons pas notre raison de vivre, n'en faisons pas une question métaphysique, le terme étant à prendre dans le sens que lui donne René Girard dans le concept du désir métaphysique. Si nous faisons de telle ou telle détestation notre raison d'être, nous nous exposons à de nombreux risques. Nous tromper d'adversaires, tomber dans une logique de bouc émissaire, voir notre cause passer du prestige à l'opprobre, éprouver la déception de constater que l'éradication de notre quelque chose ne conduit pas réellement à un bien, retrouver notre vide métaphysique intérieur une fois que nous aurons nous-mêmes éliminé le quelque chose dont nous étions un anti, vivre la frustration de ne pas atteindre notre but existentiel si nous échouons à l'éliminer. Si, comme nous l'enseigne René Girard, il nous est impossible d'échapper au mimétisme du désir inspiré par des modèles, alors que ce soit en imitant leur désir positif et non leur haine.
Ce sera donc le mot de la fin. Merci aux auditeurs de leur écoute. Au revoir, Jean-Louis.
Au revoir, Catherine.